six naissances. Immersion dans le cinéma sur Radio Shalom Bourgogne. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans une toute nouvelle émission de Cinescence sur Radio Shalom Bourgogne, fréquence 97.1. Imaginez, un fleuve que l'on remonte, une lente pénétration dans cette jungle hostile du Vietnam, nous conduisant jusqu'aux portes du Cambodge. Une traversée qui, chaque minute supplémentaire, nous fait basculer un peu plus dans la folie causée par la guerre. Cette histoire est le récit du film, sorti en 1979 par Francis Ford Coppola, s'intitulant Apocalypse Now. Pour entrer dans Apocalypse Now, il faut d'abord comprendre le voyage qu'il propose. Un voyage géographique, militaire, mais surtout mental. Avant d'analyser ce que le film nous fait ressentir, revenons brièvement sur l'histoire qu'il raconte. Au cœur de la guerre du Vietnam, les services secrets de l'armée américaine confient au capitaine Willard la mission de retrouver et d'éliminer le colonel Kurtz, qui, dans la jungle, au-delà de la frontière cambodgienne, s'est taillé un empire sur lequel il règne par la terreur. Au fil de cette traversée, Willard et l'équipage qui l'accompagne découvrent un territoire où la guerre déforme tout, les repères, les hommes et même la réalité. Chaque étape du fleuve les entraîne un peu plus loin de la civilisation et un peu plus près d'un mystère qui dépasse la simple mission militaire. Pour plonger dans l'univers de ce film culte, je vous laisse écouter Dossier, composé par Carmine Coppola et Francis Ford Coppola. On lit souvent qu'un tournage est une aventure. Celui d'Apocalypse Now, lui, tient plutôt de la dérive. Une plongée lente dans la jungle, dans la folie, dans la perte totale de contrôle. Dès l'origine, le projet semble voué à l'échec. Hollywood refuse de financer un film sur une guerre encore en cours. L'armée américaine se retire, et l'adaptation de la nouvelle de Joseph Conrad, datant de 1899, est successivement abandonnée par Orson Welles, puis George Lucas. Convaincu pourtant d'avoir entre les mains son chef-d'œuvre, Francis Ford Coppola, désormais auréolé des succès du Parrain 1 et 2, prend une décision insensée. Il décide de financer lui-même le film. En choisissant le réalisme brutal de la jungle philippine plutôt qu'un plateau de cinéma, il se retrouve piégé dans un décor à ciel ouvert qu'il ne maîtrise absolument pas. Le chaos s'installe avant même la première prise. Le casting s'effondre. Al Pacino, Steve McQueen, Jack Nicholson refusent de s'enfoncer dans la jungle. Harvey Keitel est alors engagé, puis renvoyé au bout de 2 semaines, jugé incompatible avec le rôle. En urgence, Martin Sheen est appelé pour incarner Willard. Fragile, nerveux, alcoolisé, il tourne la scène du miroir réellement ivre, se coupant la main pour de vrai, tandis que Coppola laisse tourner la caméra. Quelques jours plus tard, Sheen est victime d'une crise cardiaque en pleine jungle. Le réalisateur cache l'incident pour éviter l'arrêt du tournage. L'acteur ne reviendra que 3 semaines plus tard. Le Vietnam est recréé aux Philippines, sous la dictature de Ferdinand Marcos. Le président prête des hélicoptères militaires, qu'il réquisitionne régulièrement pour combattre des rebelles. Les appareils doivent être repeints aux couleurs américaines, puis remaquillés aux couleurs philippines à chaque départ précipité. La frontière entre fiction et réalité se brouille dangereusement. Puis, en mai 1976, un typhon dévaste tout. Des corps pulvérisés, villages détruits, électricité coupée, 6 semaines d'arrêt, des millions envolés. Dans le camp de Kurtz, un incident renforce l'atmosphère morbide du tournage. Pour habiller le décor, l'équipe utilise un véritable squelette humain acheté auprès d'un fournisseur local censé fournir du matériel médical. Lorsque la police philippine découvre que ce vendeur est impliqué dans un trafic douteux, elle intervient pour vérifier l'origine du squelette. L'équipe du film, elle, n'est mise en cause à aucun moment. La production a finalement dû se résoudre à utiliser des cadavres en plastique pour terminer les scènes du camp, bien que certains membres de l'équipe aient affirmé plus tard que l'odeur de décomposition était restée imprégnée dans les lieux pendant des semaines, provoquant de nombreux malaises. Quand Marlon Brando arrive enfin pour incarner Kurtz, le chaos franchit un nouveau cap. Il débarque avec 4 mois de retard, en surpoids d'environ 40 kilos, sans avoir lu la nouvelle de Conrad, ni le scénario. Coppola le retrouve chaque jour pour l'aider à assimiler le texte, tout en réécrivant la fin du film chaque nuit, d'un film qui l'obsède. Il filme Brando dans l'ombre pour masquer un corps que l'acteur refuse de montrer. Pendant ce temps, Lenny Souper erre sous drogue permanente, ingérable. Et Laurence Fishburne, 14 ans seulement, a menti sous son âge pour être engagé. Plus personne ne contrôle rien. Coppola, lui, s'effondre psychologiquement, stress extrême, paranoïa, nuit blanche, perte de poids spectaculaire. Il doute de tout, se persuade que le film est un désastre. Ce n'est plus un tournage, c'est une obsession qui le consume, jusqu'à la dépression. Le calendrier explose, 6 semaines prévues, 16 mois réels, le budget triple pour atteindre 30 millions. Coppola hypothèque ses biens pour continuer le tournage, des centaines d'heures de rush, 2 ans de montage. Et pourtant, en 1979, contre toute attente, Apocalypse Now sort enfin. Palme d'or dans une version pourtant inachevée, puis Oscar et reconnaissance mondiale. Un chef-d'œuvre né d'un enfer logistique, humain et psychologique. Comme si le film avait dû traverser sa propre apocalypse pour exister. Cette expérience extrême a profondément marqué la matière même du film, et cela s'entend dès les premières secondes. Un travail sonore qui plonge immédiatement le spectateur dans un état de trouble. L'ouverture est déjà iconique. Le bruit des rotors d'hélicoptère précède l'image, laissée noire. Le son n'est pas encore localisable. Est-ce un souvenir, un rêve, une menace? Puis la guitare du titre The End du groupe The Doors se glisse lentement. Les images de jungle en flammes apparaissent au ralenti, superposées au visage immobile de Willard dans son lit. Tout est déjà là. La guerre n'est plus un événement extérieur, c'est une présence mentale qui reste ancrée comme un traumatisme. Le bruit mécanique des hélicoptères devient un motif sonore obsessionnel, presque une hallucination auditive qui annonce le film entier. Pour traduire cela en réalité, écoutez un extrait de l'ouverture du film avec en fond un aperçu du titre The End du groupe américain The Doors.
The end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end.
Ce choix est fondamental. Coppola ne cherche pas à reproduire fidèlement un champ de bataille, il construit un paysage intérieur. Les hélicoptères deviennent un élément sonore récurrent qui dépasse leur fonction militaire. Ils incarnent la modernité violente qui s'infiltre dans la jungle, mais aussi la répétition traumatique dans la tête de Willard. On entend souvent les retorses avant de voir les appareils. Le son prépare à la peur, il crée l'angoisse avant l'image. La séquence de l'attaque menée par Kilgore est l'exemple le plus célèbre de ce travail sur le contraste sonore. The Ride of the Valkyries, de Richard Wagner, diffusé volontairement par les soldats, transforme l'assaut en opéra militaire. Le décalage entre la grandeur musicale et la destruction réelle produit un effet glaçant. Ce n'est pas une glorification héroïque, au contraire, la musique souligne l'absurdité du spectacle guerrier. Les explosions, les tirs, les cris humains ne sont pas couverts par la partition, ils coexistent. Coppola montre comment la guerre américaine se met elle-même en scène, comment elle se théâtralise. Le son devient ici un outil critique. Écoutez tout de suite un extrait de ce moment du film, avec en fond un aperçu du titre The Ride of the Valkyries de Richard Wagner.
Thank you. Peut-être qu'il va repérer un gros calibre là-dessous. On descend voir ce que c'est au juste.
Plus on avance dans Apocalypse Now, plus le fond sonore se transforme en pression constante, presque insupportable. Après la scène du pont de Dolong, lorsque les tirs partent dans le vide, sans ennemi identifiable, un son aigu et continu s'installe progressivement, comme une tension nerveuse qui ne retombe jamais. Ce n'est pas une musique mélodique, mais une nappe sonore stridente, diffuse, qui semble flotter au-dessus des images et envahit l'espace mental du spectateur. Elle traduit l'effondrement des repères. Cette montée sonore accompagne la perte de rationalité du récit, à l'image du périple sur le fleuve qui ressemble de plus en plus à une plongée dans l'inconscient de Willard. Pour vous plonger directement dans l'ambiance, voici le passage précis dont il est question. L'approche du camp de Kurtz marque un basculement net, une pulsation grave, répétée par deux coups, rythme l'avancée du bateau. Ce battement cérémoniel crée une tension presque physique, comme un signal d'entrée dans un territoire interdit. La jungle domine totalement le paysage sonore, isolant Willard du reste du monde humain. On entre dans un sanctuaire inquiétant, hors du temps. Pour rendre cela plus concret, écoutons maintenant le passage exact du film. Dans la jungle, le film installe un paysage sonore qui étouffe autant qu'il fascine. La pluie martèle, l'orage gronde, les insectes saturent l'air. Rien n'est paisible, tout est envahissant. Coppola laisse ses bruits s'installer longuement jusqu'à donner l'impression que la nature observe les soldats, les encercle, les juge. La scène du tigre cristallise cette menace. Dans le silence accompagné des chants des oiseaux, l'animal surgit comme dans une scène de film d'horreur. Ce n'est pas seulement un danger physique, c'est la jungle qui impose son chaos, son mystère. Un avertissement brutal que ce voyage n'est pas militaire, mais initiatique. Comme le dit Chef, son compagnon d'aventure, dans un cri de terreur, il ne faut jamais quitter le bateau. Pour appuyer cette analyse, je vous propose d'écouter le moment en question. Thank you.
Qu'est-ce que c'est? La Viette. Abridée.
La voix off de Willard agit comme un fil fragile à travers ce chaos. Elle est neutre, presque détachée, sans emphase dramatique. Elle ne commande pas l'action comme dans un film de guerre classique, elle reflète un regard intérieur, une conscience fatiguée. Ce contraste constant entre voix calme et environnement sonore instable renforce la sensation de déréalisation. Mais le son ne suffit pas à expliquer la puissance d'Apocalypse Now. Ce vertige passe aussi par l'image, par la manière dont Coppola filme la guerre et l'environnement dans lequel elle se déroule. Apocalypse Now s'impose d'abord par une mise en scène monumentale, pensée comme une fresque plus que comme un simple récit de guerre. Coppola filme le Vietnam à grande échelle, plan large, mouvement ample, profondeur de champ qui écrase l'homme sous l'immensité du paysage. La jungle n'est jamais un décor, mais une force qui engloutit les soldats et les réduit à des silhouettes perdues. Les scènes de combat, chorégraphiées comme un opéra visuel, témoignées par l'entrée des hélicoptères sur le village, les fumigènes colorés et les explosions millimétrées, relève un paradoxe glaçant. La guerre devient un spectacle alors qu'elle détruit tout. Cette esthétique de la démesure transforme le conflit en théâtre où se joue quelque chose de plus vaste que la simple stratégie militaire. La photographie de Vittorio Storaro accompagne cette montée en intensité. Le film s'ouvre sur les jaunes et oranges saturés du napalm, puis la palette s'assombrit au fil de la remontée du fleuve. Les verts deviennent plus profonds, les bruns envahissent l'image, les fumigènes violets et rouges couvrent l'écran comme des hallucinations. À l'arrivée chez Kurtz, le clair-obscur domine. Le visage de Brando n'émerge que partiellement de l'ombre, sculpté par une lumière latérale qui traduit la dualité morale du personnage. La couleur ne décrit pas un lieu, elle exprime la décomposition psychologique du monde. La caméra d'Apocalypse Now semble flotter en permanence. Sur le bateau, elle suit le mouvement de l'eau, vue du ciel, et glisse au-dessus de la jungle avec une inquiétante tranquillité. Les plans sont longs, presque hypnotiques, et laissent le chaos se déployer sans le couper artificiellement. Au début, la mise en scène reste dynamique, mais plus le voyage avance, plus les images deviennent fixes, verticales, comme si la caméra s'enfonçait elle aussi dans la jungle. Cette fluidité instable donne la sensation d'une dérive continue, d'un monde qui perd peu à peu ses repères. En combinant ampleur visuelle, travail chromatique et mouvement de caméra, Coppola construit une expérience immersive, où la guerre dépasse le simple réalisme pour devenir une plongée dans l'inconscient. Chaque plan participe à une réflexion sur la violence, la perte de sens, et l'effacement progressif de l'individu. Apocalypse Now n'est pas seulement un film de guerre, c'est une fresque sensorielle, un voyage vers l'ombre où la mise en scène elle-même devient le moteur du vertige. L'œuvre explore d'abord la folie engendrée par la guerre. Coppola montre une dérive progressive, qui ne frappe pas soudainement mais s'installe par paliers. Willard, dès l'ouverture, est déjà psychologiquement brisé, incapable d'exister hors du conflit. Plus le fleuve est remonté, plus les comportements se fissurent. Kilgore bombarde un village pendant que certains soldats surfent sur les vagues. Des soldats tirent sans savoir sur qui, et Kurtz incarne l'aboutissement de cette logique. Il n'est pas fou par essence, il est devenu fou parce que la guerre l'a libéré de toute limite morale et hiérarchique. Cette folie s'accompagne d'une déshumanisation profonde. Les soldats ne sont jamais filmés comme des héros, mais comme des corps épuisés, interchangeables, parfois indifférents à la violence. Les civils, eux, disparaissent presque du cadre, réduits à des silhouettes fuyant les bombardements. La scène de la jonque, où un simple contrôle maritime dégénère en massacre, illustre brutalement cette perte d'empathie. Coppola montre comment la répétition de la violence et l'absurdité des ordres vident les individus de leur humanité, qu'ils tuent ou qu'ils obéissent. Le film dénonce aussi la guerre comme un spectacle absurde. L'attaque au napalm, sur fond de Richard Wagner, transforme la destruction en opéra militaire. Le show des playboys, organisé au milieu du chaos, révèle une guerre devenue divertissement. Le surf sous les bombes pousse cette absurdité à son paroxysme. Dans ces scènes, Coppola critique un conflit où la forme a pris le dessus sur le sens, où la violence est consommée comme une performance, détachée de toute réalité humaine. Coppola interroge ensuite sur la frontière entre civilisation et barbarie. Les forces américaines, censées incarner l'ordre, se comportent souvent de manière chaotique, irrationnelle ou cruelle. A l'inverse, Kurtz, isolé dans la jungle, tient un discours structuré, presque visionnaire, bien que terrifiant. Cette inversion trouble le spectateur et remet en question les catégories habituelles du bien et du mal. Le film suggère que la barbarie n'est pas l'opposé de la civilisation, mais l'une de ses potentialités, prête à surgir lorsque les cadres s'effondrent. Enfin, Apocalypse Now montre une guerre vide de tout sens. Le pont de DeLong est l'image la plus frappante. Des soldats tirent dans le noir, sans ennemi visible, sans objectif, simplement parce que la guerre continue. Le conflit n'a plus de justification politique ou stratégique, il existe pour lui-même, comme un système autonome. Le voyage de Villard ne mène pas à une victoire, mais à une prise de conscience amère. Coppola ne dit pas un discours politique, mais une méditation sombre sur ce que la guerre révèle de l'homme, sa fragilité, sa violence, et la facilité avec laquelle il bascule dans le chaos. Tous ces thèmes convergent vers une figure centrale, un point de cristallisation du film. Au bout du fleuve, au bout de la guerre, se tient Kurtz. La scène finale se déploie comme un véritable rituel sonore où chaque élément du montage participe à une liturgie de violence. Le film alterne les plans du meurtre de Kurtz par Willard et ceux du sacrifice du buffle, créant une structure parallèle qui transforme l'acte individuel en cérémonie collective. Une cacophonie maîtrisée envahit alors l'espace sonore, hurlements étouffés, coups répétés, grondements d'un orage lointain. Tous ces bruits se mêlent à The End du groupe The Doors, qui revient comme un écho au prologue du film, refermant ainsi la boucle et cherchant presque à étouffer l'horreur de ce moment. La musique s'élève, se densifie et s'accélère, puis soudain se suspend. Dans ce vide sonore ne subsistent que la pluie haletante, les bruits des insectes et les derniers mots de Kurtz, puis une musique douce, calme, redémarre comme un souffle après la tempête. Afin de mieux saisir l'intensité de ce passage, découvrons ensemble l'extrait correspondant.
Take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us and meet me at the back of the blue bus. Do not blue rock on the blue bus. Do not.
On entraîne les jeunes soldats à tirer sur des hommes. Mais leurs officiers ne les autorisent pas à écrire « merde » sur leurs avions. Parce que c'est obscène.
Kurtz représente pour Willard un miroir déformant, mais terriblement lucide de ce qu'il pourrait devenir. Tout au long du voyage, Willard avance vers un homme qui n'est pas seulement sa cible, mais son double potentiel. Comme lui, Kurtz est un soldat brillant, discipliné, loyal, façonné par l'institution militaire. Mais là où Willard tente encore de maintenir une forme de contrôle, Kurtz a franchi la ligne. Il a laissé la guerre dissoudre toutes les limites morales, jusqu'à créer son propre système, sa propre vérité. En découvrant Kurtz, Willard ne rencontre pas un monstre, mais une version extrême de lui-même, libérée de toute contrainte. Cette identification trouble donne tout son sens à la mission. Tuer Kurtz revient à tuer ce qu'il pourrait devenir. Le face-à-face final n'est donc pas un duel militaire, mais une confrontation intérieure où Willard mesure la fragilité de sa propre identité face au chaos. En tuant Kurtz, il met fin à une dérive qui aurait pu être la sienne. Et lorsqu'il sort du camp, couvert de boue, silencieux, les soldats s'inclinent devant lui, comme devant un nouveau chef. Mais Willard refuse ce rôle. Il ne prend pas la place de Kurtz, il s'en va. Le film se termine sur un silence étrange, presque sacré. Pas de triomphe, pas de retour glorieux. Juste un homme qui s'éloigne d'un monde qui a perdu toute raison d'être. Apocalypse Now ne raconte pas comment gagner une guerre, mais comment elle dévore ce qui la traverse. Et lorsque l'écran s'assombrit, il ne reste qu'une question suspendue. Que ramène-t-on vraiment de la guerre quand on en revient vivant? Pour finir en beauté ce voyage, je vous laisse écouter Letters from Home, composé par Carmine Coppola et Francis Ford Coppola. Merci d'avoir écouté le nouvel épisode de Cinescence, votre émission de cinéma. A très bientôt sur Radio Shalom Bourgogne, fréquence 97.1. Cinescence. Immersion dans le cinéma sur Radio Shalom Bourgogne.